autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. Aujourd'hui, une grande question à la fois scientifique et philosophique. Les robots tueurs. Des robots sont déjà utilisés pour faire la guerre, par exemple à la frontière coréenne ou en Israël. Ils peuvent parfois même déclencher les tirs sans intervention humaine. Et ils risquent de se développer encore plus dans les années à venir. Ces technologies posent de nouveaux problèmes éthiques. Comment intégrer des règles morales dans les programmes informatiques? Les robots peuvent-ils éviter certaines dérives des soldats humains? Ou bien est-ce la porte ouverte à des guerres encore plus inhumaines? Faut-il carrément interdire les robots tueurs, comme l'ont demandé certains scientifiques, dont le célèbre astrophysicien Stephen Hawking? Ce sont les questions que nous allons poser à notre invitée du jour, la philosophe Marie des Neiges Ruffo. Bienvenue à vous. Marie des Neiges Ruffo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie à la Sorbonne, professeur de philosophie à l'université de Namur, ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris. Et vos recherches portent sur les questions éthiques relatives à la sécurité, la défense et les nouvelles technologies, donc à l'intelligence artificielle, et notamment sur les robots tueurs. Vous intervenez également dans de nombreuses conférences internationales, notamment lors de conférences de l'OTAN, et vous venez de publier un livre intitulé « Itinéraire d'un robot tueur ». C'est aux éditions Le Pommier. Mais d'abord, parlez-nous un petit peu, définissez-nous ce qu'on appelle « robot tueur ».
Alors ça, c'est un vaste sujet parce que le grand public peut confondre les drones qui sont encore téléopérés, c'est-à-dire qui sont encore sous le contrôle d'un humain.
Donc un humain derrière qui appuie sur un bouton qui déclenche le tir.
Tout à fait. Avec ce qu'on appelle plus communément des SALA, des systèmes d'armes létales autonomes, qui là ne seraient plus forcément...
Donc SALA, c'est l'acronyme, hein, système d'armes létales. Létales, ça veut dire qui tue, hein, et autonomes, qui peuvent prendre d'elles-mêmes la décision de tuer.
Qui pourrait, en effet. Donc toute la question est justement, est-ce qu'on peut franchir ce qu'on considère comme une ligne rouge éthique en développant ou pas des salas qui seraient entièrement donc autonomes pour décider
mais
de tirer.
Vous dites qui pourrait, mais ça n'est pas complètement de la science-fiction. En tout cas, cela existe. Déjà, écoutons justement cette actualité.
La Corée du Sud a installé au niveau de sa frontière avec la Corée du Nord un robot militaire, le Super Aegis 2, capable d'identifier, suivre et tirer sur une cible à plusieurs centaines de mètres. Aujourd'hui, sa fonctionnalité autonome n'est pas utilisée par les autorités, mais le robot est techniquement capable de tirer sans la validation d'un homme. Selon Stuart Russell, spécialiste de l'intelligence artificielle, les États-Unis travaillent sur des robots volants aussi petits que des insectes, capables par exemple de perforer les yeux. Enfin, dernier exemple, en Israël, l'entreprise General Robotics a développé Dogo, un robot capable de tirer avec un pistolet, lancer des gaz lacrymogènes ou des grenades aveuglantes sans aucune intervention humaine.
Donc de quoi parle-t-on là? On parle d'une machine équipée d'un système, par exemple, de détecteurs de forme, de chaleur, infrarouge, qu'on pose à une frontière, et puis qui, lorsqu'elle détecte une personne, eh bien, tire dans le tas. C'est ça, une arme autonome, donc, et qui existe déjà dans certains endroits. Et donc, vous, votre livre s'intéresse aux questions éthiques et morales que cela soulève.
Tout à fait. Dans quelle mesure est-il légitime, éthique, de laisser une machine décider de la vie ou de la mort d'un individu de manière automatique ou autonome, si on préfère le terme autonome?
Donc votre livre est en même temps traite d'un sujet tragique, mais très amusant, puisqu'il se présente sous la forme d'un dialogue, d'une conversation. Vous imaginez une agora, une grande place avec différentes personnes. Alors on y croise Pythagore, le primatologue Franz de Waal, que nous recevions il y a quelques jours d'ailleurs ici, Alan Turing, l'inventeur, le pionnier de l'informatique, des écrivains comme l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov, et des philosophes, des scientifiques, des biologistes, et vous mettez tout ce monde-là ensemble et vous les faites discuter.
Oui, ça c'est la licence de la fiction, n'est-ce pas?
Oui, mais c'est une fiction, mais quand même basée sur des vraies réflexions, ces réflexions qu'auraient pu avoir ces personnes. Il y a même des robots qui parlent dans votre livre.
Tout à fait. Ça, c'est... J'ai inventé évidemment un robot qui aujourd'hui n'existe pas encore, parce que s'il était aussi avancé qu'il l'est dans ce récit sur l'état de la réflexion, je pense que nous aurions vraiment des soucis à nous faire. Heureusement, ça c'est encore de la fiction, mais effectivement, c'est quelque chose finalement de pas très étonnant pour un philosophe d'utiliser des penseurs de toutes les époques pour une réflexion actuelle, parce qu'en philosophie, il n'y a rien qui est plus impossible qu'obtenir un progrès, puisque en philosophie, par définition, on a des questions éternelles à traiter.
Oui, et la grande question, finalement, au bout du compte, c'est de savoir si ces robots soldats seraient plus ou moins éthiques que des soldats humains. Est-ce que les guerres seraient plus ou moins inhumaines ou injustes, bien qu'une guerre soit toujours une tragédie, mais est-ce que ces robots permettraient peut-être de tuer moins d'innocents, moins de civils, ou au contraire, davantage ? Écoutons, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance d'un monde inhumain, cet extrait du film Chappie qui met en scène un monde où la police serait complètement robotisée.
Le déploiement de la première police entièrement robotisée avait suscité l'intérêt de toute la planète en 2016.
Lâchez vos armes, vous êtes en état d'arrestation.
Vincent Moore est un ancien militaire.
L'intelligence artificielle est beaucoup trop imprévisible.
Le concepteur des Scouts, Dion Wilson, est optimiste pour l'avenir.
Moi, ce que j'aimerais, c'est une machine qui ressent les choses et qui pense.
Autour de la question, nous nous intéressons aujourd'hui au robot tueur. Marie-Déneige Ruffaut, vous connaissez ce film ?
Tout à fait, je le conseille chaque fois que j'ai l'occasion.
Oui, donc alors, ces questions dont il traite, hein, ce sont alors des robots policiers. Il y a un robot qui commence à se rebeller. Donc, dans la réalité, un robot, ça ne peut pas se rebeller quand même.
Alors, s'il se rebelle, c'est évidemment le problème du bug, et donc on ne souhaitera pas conserver un robot qui bug, n'est-ce pas ? Et certainement pas sur un champ de bataille. Et en même temps, s'il pouvait se rebeller, ce serait la preuve qu'il est libre et donc qu'il est conscient. Et donc, théoriquement, il serait capable de moralité. Donc nous sommes, enfin en tout cas les cas, le robot est face à un dilemme. Soit il se rebelle et il nous prouve qu'il est libre, conscient et donc potentiellement aussi moral que nous, mais alors on ne le gardera pas, puisqu'il s'est rebellé contre nous, et donc il ne nous sert plus. Ou alors simplement, il nous obéit, et on ne peut pas savoir s'il est effectivement conscient, moral, ou s'il suit simplement son programme.
Mais a priori, on pourrait aussi programmer un robot capable de se rebeller, c'est ce qu'on apprend dans votre livre.
Alors oui, il serait possible éventuellement, mais alors là aussi, on lui apprend à se rebeller. Donc ce n'est pas une liberté complète, on lui a dit... si jamais il se passe telle situation X, tu auras l'obligation de ne pas accomplir tel et tel ordre.
On va y venir justement à cette rébellion, cette désobéissance possible, même chez le soldat humain d'ailleurs. Mais déjà, commençons par nous poser la première question. Pourquoi des robots soldats ? À quoi ça sert ?
Ça, c'est une grande question. Évidemment, depuis la préhistoire, on a toujours essayé d'augmenter la portée de nos armes pour se mettre à distance, pour se protéger. Donc avant tout, on développe des technologies pour se protéger soi-même et tuer, c'est très froid à dire, mais tuer de façon entre guillemets plus efficace. Donc c'est d'abord un souci d'efficacité et de protection qui a motivé ces technologies. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où les drones sont, pour ceux qui sont encore téléopérés, sont dirigé depuis un continent.
Téléopéré, c'est-à-dire qu'il y a un humain derrière, mais il y en a qui pourraient déclencher par eux-mêmes le tir.
Tout à fait. Alors là, on est même plus encore à distance, on est carrément absent de la chaîne de commandement.
Ça, technologiquement, c'est tout à fait possible.
Il ne suffirait que d'une décision politique pour le faire, oui.
Vous posez la question justement dans votre livre, hein, vous citez le philosophe Hubert Dreyfus qui disait que le problème ce n'est pas de se demander ce que les ordinateurs ne peuvent pas encore faire, mais de se demander qu'est-ce que les ordinateurs ne devraient pas faire. Donc il y a des choses qu'il faudrait leur interdire de faire et peut-être justement de tuer.
Oui, tout à fait.
Donc c'est la question qui pose, qui rejoint l'aspect éthique et moral de la guerre. Donc dans une guerre, il y a quand même des lois, les conventions de Genève par exemple, qui interdisent de tuer les civils, qui doivent imposer une réponse proportionnée au risque et à la menace. Donc tout cela, est-ce que les robots peuvent en être dotés de ces règles éthiques ?
Alors, en tous les cas, il y a des propositions, notamment celle de Ronald Arkin, de créer une traduction qui est un roboticien américain. Un roboticien américain qui a proposé de créer un programme informatique pour que le robot décide de tirer en conformité avec les règles du droit international.
Donc on programme les conventions de Genève dans le robot, par exemple.
Pour la faire courte, oui. Pour la faire en résumé, voilà, dans telle et telle circonstance, on pourrait tirer.
Autour de la question, pourquoi les robots tueurs ? Luc qui chante « Je suis un robot ».
Vous écoutez RFI autour de la question.
Ils m'ont coupé les bras et mis des pinces, enlevé mon cœur trop mince. Je suis un robot. Ils m'ont donné le regard d'un autre œil. Pour voir plus loin que le ciel, je suis un robot. À chaque nuit quand on me laisse, je m'éteins mais il me reste des souvenirs en trop. Ils m'ont coupé les jambes et mis des pierres, de peur que je sois trop fier, je suis un robot. Dans ma voix plus rien ne vibre, seul mon cœur est de fibre, je suis un robot. Et sous mon masque de fer, je sens passer un peu d'air sur ce qu'il me reste de peau. Sentir de l'eau sur ma peau. Ils ont effacé mon sourire, de peur que je puisse en rire. Je suis un robot. Ils m'ont fait un visage de verre, mon âme est à découvert. Je suis un robot. Chaque nuit quand on me laisse, je regarde le temps qu'il me reste, planté comme un drapeau.
Vous écoutez autour de la question, pourquoi les robots tueurs et comment insérer des règles morales et éthiques dans ces robots soldats qui existent aujourd'hui et qui risquent de se développer encore plus à l'avenir. Nous sommes avec la philosophe Marie Desneiges Ruffaut. Donc, ces robots tueurs, donnez-nous un exemple concret de règles éthiques qu'il faudrait leur inculquer.
Eh bien, comme vous savez, dans le droit international humanitaire, les civils sont protégés. Il y a un certain nombre de cas qui sont problématiques également pour les humains, mais qui le seraient peut-être encore plus pour des robots. Je prends l'exemple d'un terroriste qui se serait caché à l'intérieur d'une ville à proximité d'un hôpital. Imaginons que le robot soit doté, on imagine quelque chose d'assez avancé, hein, d'une reconnaissance faciale, et qu'il ait détecté, on imagine, voilà, Ben Laden par exemple, Ben Laden est reconnu à côté d'un hôpital pour enfants, pour insister vraiment sur la gravité du cas. Est-ce qu'un tir serait autorisé ? Le droit international humanitaire protège notamment les hôpitaux, enfin toutes les personnes qui appartiennent à la Croix-Rouge évidemment, puisqu'il faut protéger les civils, les personnes qui ne sont pas en état de combattre, donc il y a des protections qui sont assurées. Si on vise un terroriste à proximité, nous risquons évidemment de toucher l'hôpital. Donc, pour un humain, c'est quelque chose d'assez facile et encore néanmoins problématique parce que c'est un cas qui se produit, qui n'est pas juste fictionnel. Bon, évidemment, le cas de Ben Laden
est fictionnel. Mais comment réagiraient des... Donc, sans parler des robots, des soldats humains dans ce cas-là. Est-ce qu'ils évaluent le rapport risque-bénéfice, c'est-à-dire l'intérêt qu'il y a à éliminer un terroriste et en même temps le risque qu'il y a à tuer des innocents? Comment est-ce qu'ils tranchent cette question?
Alors justement, cette question de la proportionnalité doit être évaluée. Dans quelle mesure est-ce qu'un tir est adapté ou pas? Alors il est évident qu'à proximité d'un hôpital, on ne va pas lancer un bombardement généralisé. Par contre, on peut envisager une opération un peu plus restreinte, bon, extraire, mais évidemment... Ça suppose que les soldats s'exposent
disons, là,
d'autant plus.
Vous parlez de la théorie, puisque dans la pratique, malheureusement, l'histoire, même récente, nous montre que cela arrive parfois.
Ça devrait être l'idéal, et en tous les cas, c'est ce qui est souhaité. Mais effectivement, l'éthique, la moralité, c'est parfois l'idéal, mais c'est néanmoins un idéal que l'on doit atteindre. Donc la question de est-ce qu'on y arrive dans la réalité à chaque fois ou pas, je pense que c'est pas forcément une objection dans la mesure où...
Supposons, disons que l'humain, lui, il peut au moins évaluer le pour le contre avec sa sensibilité du moment, ça c'est une chose. Mais le robot, lui, il fait ce que le programme lui dit de faire.
Voilà, donc si on voulait un robot, si je fais l'avocat du diable, en imaginant que je veuille construire quelque chose comme un robot moral, il faudrait par exemple que je lui inculque que voilà, tel endroit, il y a un hôpital, on ne tire pas. Par exemple. Ça, ce serait un exemple de contrainte que l'on pourrait mettre à l'intérieur.
Mais il faut
d'un...
lui apprendre, dans ses capteurs, à reconnaître... Bon, alors, le terroriste, on peut dire qu'il y a le programme de reconnaissance faciale, etc. Mais en même temps, comment reconnaître un hôpital? Il n'y a pas forcément un sigle marqué hôpital. Il n'y a pas forcément des signes distinctifs permettant de reconnaître un civil d'un combattant.
Alors si je voulais jouer l'avocat du diable, je vous dirais qu'il est plus facile de reconnaître un hôpital qu'un terroriste, parce que l'hôpital, en théorie, justement pour bénéficier des protections qui lui sont dues en vertu du droit, affiche assez clairement une croix rouge ou un croissant rouge, justement pour assurer une protection. Ça n'empêche évidemment qu'il y a eu des cas où des hôpitaux ont été pris pour cible, hein, et je parle de cas encore assez récents malheureusement. Qui défraie d'ailleurs l'actualité et la chronique. Donc logiquement, les hôpitaux sont facilement identifiables justement pour être protégés. C'est tout le contraire d'un terroriste qui va, dans la mesure du possible, essayer de se confondre avec les civils. Les terroristes ne se promènent pas avec une grande affiche.
Oui, mais alors le robot, est-ce qu'il serait plus efficace qu'un soldat humain ou moins efficace pour arriver à distinguer un terroriste déguisé en civil d'un... vrai civil?
C'est tout le problème, d'une part, du contexte dans lequel l'action a lieu. Il est évident que l'intérêt du terroriste, évidemment, est de survivre et donc de se cacher dans la population. Si vous êtes dans un désert où il n'y a absolument aucun bédouin à proximité ou d'habitants, il est certain qu'il y a plus de risques que vous soyez effectivement un terroriste en déplacement. Donc, suivant le contexte, on peut plus facilement supposer que vous êtes un terroriste ou pas. Pour autant, est-ce que ce contexte est suffisant pour signifier que vous êtes ou pas un terroriste ou justement un journaliste occupé à recueillir des informations dans des coins reculés? C'est pas forcément suffisant. Donc, la fiabilité du robot n'est pas assurée.
Mais il y a eu également des exemples de confusion, notamment il est arrivé à Gaza que des drones tirent sur des enfants puisqu'ils les avaient confondus avec des terroristes. Les enfants étaient en train de jouer avec une arme. Le drone, avec ses appareils de reconnaissance, de forme, a vu des formes humaines avec des armes. Il a tiré, mais il y avait quand même un opérateur derrière. Donc là, ça n'est pas que le drone, mais c'est un ensemble système mécanique électronique de reconnaissance de forme plus humain qui ont permis à cette confusion tragique. Donc, mais on peut imaginer que si les robots soldats se développaient, ce genre d'erreur serait de plus en plus fréquente, ou au contraire, comme certaines personnes le disent, peut-être moins, parce que justement les robots seraient plus efficaces que les humains pour différencier les soldats des civils.
Alors je ne vais pas jouer les futurologues en disant voilà, la probabilité est de autant de pourcents que ce soit mieux ou que ce soit moins bien. Je ne m'en lancerai pas là-dedans, mais en tous les cas, il est certain que si l'humain peut se tromper, il serait excessif de penser que la machine fera forcément mieux. Ça ne veut pas dire qu'elle fera forcément pire non plus, mais ce qu'il faut se garder, c'est d'idéaliser l'un ou l'autre. Il faut être conscient qu'on peut être aidé par des systèmes de reconnaissance de forme, mais qu'en même temps, si on veut garder un humain dans la décision du tir, ce que je prône, si on veut garder un humain pour déterminer ou pas de tirer, c'est évidemment parce que l'humain doit douter. La machine ne doute pas. Ou alors, on lui a appris justement à dire, bon, à partir de tel seuil de probabilité de la reconnaissance de forme, tu tires. Bon. Enfin, on espère que ça ne sera jamais implémenté dans des zones urbaines, parce que ça, c'est évidemment problématique, beaucoup plus que dans le cas, je dirais, assez délimité d'une frontière, telle que la frontière sud-coréenne, où, en théorie, on n'a pas l'habitude de passer ses vacances.
Oui. Alors, justement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, nous parlons en tout cas d'artifice, là, ici, alors est-ce que c'est de l'intelligence ou pas? Il y a un écrivain, Jean-François Marmion, qui, lui, a écrit un ouvrage intitulé « Psychologie de la connerie », et écoutons-le, justement, vous poser une question.
Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle ne se fonde pas sur une vision erronée de l'être humain, selon laquelle notre intelligence serait pure, désincarnée, alors que l'intelligence est aussi sociale, l'intelligence est aussi corporelle, on voit le monde avec notre corps, avec nos émotions autant qu'avec notre intellect? Est-ce qu'à vouloir créer une intelligence artificielle, on ne risque pas de créer une connerie artificielle, c'est-à-dire une intelligence extrêmement limitée, en plus calquée sur l'intelligence humaine, qui n'est peut-être pas ce qu'on croit?
Alors Marie Desneiges-Ruffaut, faire confiance à l'intelligence artificielle plutôt qu'à la connerie artificielle pour faire la guerre?
Oui, je ne sais pas si je préférais la connerie naturelle, mais néanmoins, pour utiliser le même vocabulaire, néanmoins, il faut, je pense... que votre intervenant,
oui, Jean-François Marmion, oui.
Merci, a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, à savoir la réduction de la réalité. Il est évident que si on utilise une intelligence artificielle, on est un peu trompé en français par le mot intelligence artificielle. En anglais, quand on l'utilise, on a bien conscience que c'est une simulation, que c'est une imitation. Dans le mot français intelligence artificielle, on a un peu l'impression que finalement c'est l'intelligence du robot qui serait à peu près similaire à la nôtre.
Oui, et pourquoi en anglais c'est différent?
En tout cas, la perception que j'ai du mot en anglais me paraît être un peu différente, parce que l'aspect simulation me paraît, dans la signification du mot artificiel, beaucoup plus présente que dans le mot artificiel en français. En tout cas, je dirais dans le champ
nous,
sémantique.
On a l'impression que le robot, la machine, est dotée d'une propre intelligence. Vous vous dites
oui,
que
voilà, c'est artificiel comme nous avons une intelligence naturelle et que finalement ça se vaudrait.
Jean-François Marmion, c'est qu'il manque tout l'aspect sensible, émotionnel, que l'intelligence n'est pas simplement la raison, mais c'est aussi la sensation, les sentiments.
Voilà, donc je pense que l'anglais est plus conscient qu'il y a un aspect de simulation, mais donc forcément de diminution de la réalité, c'est-à-dire que ce sera une simulation d'une partie de l'intelligence, ce qu'on perçoit peut-être moins en français, en tout cas dans ce que j'ai, dans l'impression que j'en ai, hein, dans la compréhension que j'en ai, qui n'engage que moi. C'est qu'il y a évidemment cet aspect beaucoup plus large de notre intelligence naturelle qui inclut notamment par exemple les émotions. Alors bien sûr, certains essaient d'intégrer des émotions chez le robot en disant « ben voilà, on va créer un robot qui a des émotions ». Je pense que là aussi, c'est se tromper dans ce que sont les émotions chez le robot. Parce que là encore, on va le faire imiter, simuler des émotions. Mais si je prends, ben tout bêtement, j'utilise Google Traduction, voilà, j'utilise un logiciel, et je tape la phrase « j'aime beaucoup le chocolat », et puis je mets la petite fonction haut-parleur, mon ordinateur va me dire « j'aime beaucoup le chocolat ». Est-ce que vous pensez que je viens de créer un ordinateur qui aime le chocolat? Non, je lui ai fait dire qu'il aimait le chocolat. Est-ce que pour autant il a l'amour du chocolat? Non, mais je le lui ai fait dire. Donc peut-être que dans la simulation des émotions, enfin peut-être pas, j'en suis convaincue, il n'y a qu'une simulation. Ça n'a rien à voir de simuler quelque chose, de simuler l'intelligence, de simuler des émotions, que d'éprouver, comme l'humain l'éprouve, des émotions ou exerce une intelligence. Il disait très justement que l'intelligence qu'on veut faire imiter au robot est encore une intelligence très limitée. C'est vrai, c'est une forme de... C'est la raison calculante. C'est la capacité de calcul qu'on fait imiter à la machine. Et d'ailleurs, elle imite tellement bien qu'elle nous dépasse. Aujourd'hui, si je n'ai pas sur mon smartphone l'option calculette, je suis complètement perdue.
Oui, mais alors ce que vous voulez dire, pour en revenir à notre situation guerrière, c'est que autant un soldat humain, par exemple, pourrait être pris de pitié devant un ennemi qu'il pourrait abattre, mais qui ne va pas abattre puisque son cœur lui dit de ne pas le faire. Un robot, lui, il n'aura jamais de pitié, jamais d'émotion, jamais d'empathie, hormis ce pourquoi il aura été programmé.
Effectivement, je ne pense pas que le robot soit capable d'éprouver quelque chose comme de la pitié. Pas même de l'empathie au sens étymologique de
l'identification avec les émotions de l'autre.
Voilà, du pathos de souffrir avec ça. Non, il pourra percevoir des marqueurs de stress dans votre voix, etc. Mais la signification que nous donnons au marqueur de stress, c'est toujours nous, l'humain, qui le donnons à la machine. Pour la machine, qu'elle ait identifié des marqueurs de stress ou une température, c'est du pareil au même pour elle. C'est vous qui lisez l'étiquette qui signifie, voilà, telle donnée signifie telle chose, mais pour la machine, qu'elle ait perçu un marqueur de stress, des ondes radio, une signature thermique, quoi que ce soit, ça n'a aucune différence. Ce ne sont que des données et des chiffres.
Vous citez dans votre livre, dont je rappelle le titre, Itinéraire d'un robot tueur, un autre exemple très instructif, puisque le robot, donc il faut le programmer pour qu'il puisse distinguer un ennemi d'un ami, c'est-à-dire bon, quelqu'un qui vient dans une zone interdite, voilà, on va lui tirer dessus. Et il y a aussi des biais culturels, par exemple, ce qu'on va lui apprendre, si on lui apprend à reconnaître telle forme de visage, si c'est un terroriste, ou bien si c'est... Alors vous pensez à, par exemple, des Afro-Américains, qu'un système de reconnaissance d'images de Google avait tagué comme étant des singes. Donc c'est absolument choquant et scandaleux. Et pourtant, c'est ce qu'a fait le système de reconnaissance faciale de Google.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et il n'y a pas uniquement cet exemple-là. Hein. On a par exemple, on a prétendu créer une intelligence artificielle capable de déterminer la beauté chez une femme. Donc, voilà, qui est un petit peu cavalier, je vous dirais, parce qu'il y a différentes formes de beauté possibles. Mais il y avait cette idée que, puisque les magazines nous présentent un certain type de femmes comme étant belles, c'était ce type de beauté-là qui était le critère. Et donc, il y a des biais cognitifs culturels absolument phénoménaux quand on essaie d'éduquer une intelligence artificielle. Vous citiez par exemple cette intelligence artificielle qui avait tagué des Afro-Américains comme étant des singes. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle avait été nourrie essentiellement d'images de personnes à la peau blanche. Et par conséquent, puisqu'il n'y avait pas la bonne, entre guillemets, couleur de peau que celle qu'il avait apprise, ça n'appartenait pas.
Oui, c'est-à-dire les programmateurs des ordinateurs, des machines, eux-mêmes programment en fonction de leurs préjugés, de leur façon de penser, de ce qu'ils définissent comme correspondant à tel ou tel signe. Et donc c'est extrêmement biaisé et culturel. Donc.
Possiblement, mais je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur l'informaticien en lui-même, parce que beaucoup utilisent Internet. Donc, je dirais, c'est une responsabilité collective de notre culture. Justement, cette intelligence artificielle qui avait reconnu, voilà, la beauté, c'est celle que nous présentent les magazines, indépendamment de tous les problèmes d'anorexie qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà, des problèmes sur l'image que les adolescentes aujourd'hui doivent se faire d'une femme belle, par exemple. Eh bien, tout ça, c'est une responsabilité collective, parce que l'intelligence artificielle est nourrie de données disponibles en ligne, Internet, et donc c'est une responsabilité de notre société. C'est amusant parce que finalement, de la même façon que je parlais des adolescentes, que l'on inculque à une jeune adolescente ce qu'elle doit être ou pas, d'ailleurs, de façon libre, comme une femme plus tard, c'est la même chose que ce qu'aujourd'hui on va apprendre à une machine. C'est très intéressant.
Ouais, les machines ne sont que le reflet de nous-mêmes, au fond.
De l'éducation que nous donnons à travers notre culture.
Autour de la question, pourquoi les robots tueurs, avec la philosophe Marie Desneiges Ruffaut. Alors justement, nous allons venir à la possibilité de désobéissance des robots, de mutinerie avec le déserteur de Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps, Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins.
Vous écoutez autour de la question « Pourquoi les robots tueurs ?» avec la philosophe Marie-Déneige Ruffo. Cette chanson, vous me disiez pendant qu'elle passait que vous la passiez en cours, hein, vous enseignez à l'université de Namur, vous enseignez l'éthique, la philosophie et vous passez cette chanson. Alors comment réagissent les étudiants et vous en tirez quoi comme conclusion ?
En tous les cas, qu'on a toujours la liberté de refuser de faire quelque chose qui est contraire à votre morale, à vos valeurs. Et ben, par exemple, la guerre, si elle ne correspond pas à vos valeurs, vous devriez pouvoir avoir la liberté de ne pas aller en guerre ou de ne pas vous faire embrigader par l'État islamique, par exemple.
Et oui, alors nous parlons des robots, mais certains droits, enfin certaines législations dans certains pays autorise le soldat à désobéir. C'est le cas, en tout cas en France et en Belgique, je crois, si il estime que les ordres sont contraires à des règles, aux conventions de Genève, par exemple.
Tout à fait. Il serait erroné de croire que le soldat peut se cacher, entre guillemets, derrière l'obligation d'obéissance aux ordres et à la hiérarchie pour se protéger d'avoir à répondre de ses actes devant un tribunal face à un génocide, par exemple. Ça, c'est, je dirais, un enseignement qu'on a eu du procès de Nuremberg, par exemple, où la défense des accusés était tout simplement « moi, j'ai obéi aux ordres ». Vous connaissez sans doute l'expérience de Milgram qui disait à partir du moment où vous avez une autorité au-dessus de vous, en tant que subordonné, personne qui doit obéir aux ordres, vous dites c'est à l'autorité de répondre, mais pas moi. Donc c'est un peu l'idée de je m'en lave les mains. C'est peut-être moi qui appuie sur la gâchette, mais ce sont les autres qui sont responsables. Eh bien ça c'est faux.
Mais ça a changé il y a quand même peu de temps cette loi donc qui permet, alors non seulement qui permet, je crois, mais qui impose la désobéissance.
À des ordres considérés comme immoraux qui pourraient mener à des génocides.
Si le supérieur dit vous tuez les civils, le soldat peut dire doit refuser.
Tout à fait. Il y a un appel, une exigence vis-à-vis de la conscience individuelle, morale du militaire. Donc, quand on vous donne un ordre, si vous êtes militaire, vous devez avoir en conscience la réflexion. Si jamais on vous dit de massacrer femmes et enfants d'un village, vous devez dire non, en conscience. Ce n'est pas parce que c'est tel ou tel général, en imaginant que ce soit directement le général qui vous donne cet ordre-là, ce qui me paraîtrait hautement improbable, mais enfin, imaginons pour le cas qui, fictionnel, vous devriez dire non, fût-ce au prix de votre vie.
Alors, puisque nous parlons des robots, alors on va se faire un petit peu l'avocat du diable, en tout cas l'avocat des robots. Dans votre livre, d'ailleurs, c'est ce que vous faites, puisque vous faites converser des philosophes, des biologistes, des informaticiens et des robots. Et donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, même encore, disent que les robots seraient plus éthiques que les soldats humains. Il y a d'ailleurs un rapport que vous citez concernant le comportement des soldats américains qui, donc, sont 10% d'entre eux donc à reconnaître qu'ils ont usé de mauvais traitements à l'encontre de non-combattants, donc ils ont eu des comportements absolument donc non éthiques, alors que des robots ne pourraient pas, puisque si on le programme à ne pas s'attaquer à des civils, il ne le fera jamais.
Voilà, il y a cette idée effectivement que si un robot pouvait n'obéir qu'aux ordres, eh bien lui ne commettrait pas les horreurs que l'on voit parfois malheureusement dans les guerres. Enfin malheureusement un peu trop, enfin
fréquemment. Mais dans ce cas alors, un robot c'est mieux qu'un soldat?
Alors, le problème, c'est que c'est idéaliser la guerre. C'est idéaliser la guerre parce que c'est en fin de compte essayer de faire une balance entre un humain perçu comme étant forcément sanguinaire avec un robot qui serait un tueur froid. Ni l'un ni l'autre ne me paraissent satisfaisants pour le respect de l'éthique, évidemment. Donc il y a cette idée que si jamais je mettais un robot sur le terrain, eh bien il n'obéirait qu'aux ordres justifiés. Donc il n'y aurait plus de génocide. Dans le même temps, si je ne mettais que des robots sur le terrain, je n'aurais plus de héros. Je n'aurais plus de héros qui s'interposent pour sauver des civils, par exemple. Parce que si on robotisait la guerre, eh bien évidemment, il n'y aurait que les pays riches qui pourraient se payer le luxe d'avoir des robots. Donc, il y aurait toujours des terroristes sanguinaires. Donc, la guerre ne perdrait en rien de sa violence, en fait. Donc, on imagine qu'en robotisant, il y aurait moins de violence. Eh bien, c'est faux.
Mais vous citez ce rapport du général Sir John, c'est ça, de 2006, qui dit également que dans cette enquête qu'ils ont réalisée auprès des soldats américains, ils sont quasiment 30% aussi d'entre eux qui déclarent s'être trouvés face à des cas de conscience auxquels ils n'avaient pas su apporter de réponse. Donc si, alors déjà parlez-nous un petit peu de cette étude, et puis si les humains ne savent pas quelle réponse donner à des cas de conscience, comment un robot ferait-il mieux?
Exactement. Alors évidemment, ce qui, moi, en tant que philosophe...
Mais cette étude, dites-moi un mot sur cette étude.
Mais bon, alors tout à fait, c'est avant toute chose, les 30% qui sont intéressants, c'est... Finalement, c'est l'analyse qui est faite de ce chiffre en disant, voilà, un problème éthique auquel on n'a pas trouvé de réponse. Si vous voulez trouver une réponse dans des situations éthiques vraiment compliquées, vous devez avoir une agilité morale.
Ça serait quoi ? Donner un exemple de situation éthique compliquée.
Par exemple, si vous prenez des témoignages issus d'un livre du général Benoît Royal, L'éthique du soldat français, la conviction d'humanité, vous trouverez un cas réel qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En 2003, où un humain, c'était une situation non robotisée, mais qui ne pourrait, à mon avis, ne pas être robotisée, justement. Donc, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire en 2003 ? Eh bien, un jeune soldat reçoit une famille éplorée. Ils viennent de passer à travers un poste rebelle juste en face, et on leur a pris leur fille. Et ils demandent aux soldats français de faire en sorte de la leur rendre. Et le soldat français ne voit pas très bien comment est-ce qu'il pourrait faire en sorte de récupérer la jeune fille enlevée quand il a une idée, finalement en soi totalement absurde et illogique, celle d'envoyer un message au poste frontière rebelle en disant voilà, rendez la fille, sa famille est inquiète, c'est un geste de soldat. Et aussi étrange que cela puisse paraître, la jeune fille est revenue, escortée par un autre civil, avec un autre mot. Une réponse à la lettre qui disait « Voilà la jeune fille dont vous parliez, excusez-nous, c'était l'envie. » Et donc, sans avoir tiré le moindre coup de feu, simplement parce qu'il y a eu une reconnaissance de l'humain en face, d'une certaine exigence de soldat, d'une éthique qui est partagée, enfin qui pourrait être partagée, parce qu'il n'était absolument pas certain que les rebelles en face avaient des connaissances, une éducation morale, éthique quelconque, mais peut-être cet appel à une humanité que nous partageons tous, simplement, pour rendre donc cette jeune fille à sa famille. Ça, c'est ininformatisable.
Oui, si un robot ne pourrait jamais faire ça.
Bien entendu, parce que ça suppose une créativité. Donc le robot est capable finalement de... pourrait être capable de faire à peu près aussi bien que l'humain, mais il ne fera jamais mieux parce qu'il n'a pas la créativité. Il ne fera jamais mieux. L'humain, lui, est capable du pire, ça c'est vrai, il peut être sanglant, mais il peut aussi être capable du meilleur. Et c'est ce qu'on attend de lui. Alors il n'y arrivera pas à chaque fois, et c'est ce que présentent les chiffres de ce rapport, mais pour autant, est-ce que ça ne vaut pas le coup pour ces quelques fois ?
Le robot, alors les défenseurs du robot disent également que l'avantage du robot, c'est que lui, il ne va jamais s'énerver, il ne va jamais péter un câble, comme on dit. Hein. Alors que l'humain, lui, peut justement se mettre en colère.
C'est l'idée finalement, c'est la version moderne du bon sauvage, hein, de l'idée du bon sauvage rousseauiste. Voilà, on aurait aujourd'hui un bon petit robot, bien sage, bien obéissant, qui surtout ne pose pas de questions, ne va pas remettre en question le fait que nous fassions la guerre à tel ou tel endroit du globe, si c'est justifié ou pas. Il est plus facile d'envoyer des robots sans que votre population ne fasse des pétitions, ne se rebelle, ne fasse des manifestations, comme par exemple ce qu'on a connu avec la guerre du Vietnam, parce que les robots n'ont pas de soutien, de support, enfin...
Oui, mais le robot, lui, ne va pas non plus se mettre à torturer ou à faire usage d'une violence immodérée si on ne l'a pas programmé pour ça.
Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que l'on définit comme une violence immodérée ? Qu'est-ce qu'on définit comme une violence immodérée ? La violence, c'est évidemment aller au-delà, c'est violer, c'est franchir des limites qui sont imposées. Il faut savoir que l'humain a naturellement en lui des limites naturel à ne pas tuer. On dit souvent que l'humain est le seul être vivant qui est capable de tuer sans vouloir manger l'autre. Bon, je ne prône pas le cannibalisme, hein, mais l'idée que l'humain serait le seul animal assez cruel que pour tuer, pour le plaisir de tuer. Eh bien, en fait, toute l'histoire de la guerre pourrait se résumer par des tentatives de supprimer en nous cette limite à ne pas tuer. Donc, si on a limité en nous cette limite naturelle, de tuer, finalement le robot serait plus violent que nous, parce que lui il se posera pas ces questions-là. Il verra une signature, il tirera. Et il y avait un soldat américain qui justement sur la précision de tir de certains robots l'avait désigné en anglais comme nasty, méchante, parce qu'elle ne manquait jamais sa cible.
Qu'est-ce que les robots tueurs pourraient changer dans la guerre ? Écoutons cette question de la journaliste Caroline Tourbe.
Est-ce que le fait d'être un pays qui possède des robots tueurs, des armes autonomes, ça va redessiner les stratégies et les luttes géopolitiques sur le globe? De la même façon que l'arme nucléaire a été une arme de dissuasion, est-ce que les armes autonomes, les robots tueurs peuvent redessiner les limites de la dissuasion?
Marie Desneiges Ruffaut, qu'est-ce que ça changerait de faire la guerre avec des robots plutôt qu'avec des soldats humains ?
C'est une vaste question, parce qu'effectivement ça dépend quelles nations les posséderaient en premier. Il est évident que les nations qui sont le plus avancées aujourd'hui technologiquement sont déjà celles qui mènent les guerres. Donc à la fois pas grand-chose et tout au fond. D'abord dans le domaine éthique, qui est celui qui m'intéresse le plus. Évidemment, je trouverais scandaleux qu'on considère que nous pouvons, en tant que nation occidentale, nous permettre de faire la guerre sans nous salir les mains. Parce que
oui, puisqu'on aurait déjà moins de soldats tués. La nation qui a les moyens de se payer les robots sacrifie moins de soldats.
Voilà, avec cette idée que nous allons faire... C'est assez scandaleux. C'est l'idée que nous ferions la guerre de façon plus propre parce qu'on utilise un robot. C'est la même idée que celle qu'on avait eue à l'époque des frappes chirurgicales. Il n'y a rien comme une guerre chirurgicale. C'est toujours des morts.
Et justement, alors ces robots, ces fameux robots tueurs, est-ce qu'il faut les réglementer ou est-ce qu'il faut les interdire carrément? C'est ce que demandait, entre autres, l'astrophysicien Stephen Hawking.
Oui, ce matin, je vais vous parler d'un appel qui pourrait sembler totalement loufoque s'il n'était lancé par un millier de personnalités, des scientifiques surtout, dont le célèbre astrophysicien Stephen Hawking. Dans les minutes qui ont suivi sa publication, cet appel a été repris par les journaux du monde entier, un appel pour réclamer l'interdiction des robots tueurs. Oui, les signataires en sont persuadés. En raison des progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle, les robots autonomes tueurs, c'est pour demain.
Il y a un millier de scientifiques qui ont signé un appel pour les interdire carrément. Et vous, alors, Marie-Denage Ruffaut, qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'il faut effectivement être très prudent sur ce que l'on développe, parce que toute technologie que l'on développe, même sous prétexte de pouvoir nous protéger, ce qui est tout à fait défendable, peut être détournée contre nous. Donc ce n'est pas parce qu'une nation avec de bonnes intentions, entre guillemets, développe quelque chose que pour autant ça ne pourra pas être piraté et retourné contre nous-mêmes. Donc avant de développer quelque chose qui pourra nous desservir, je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois. Vous parlez de ce millier d'intellectuels, mais vous avez aussi une pétition qui est ouverte à tout le monde, qui est ouverte, qui est développée par une association qui s'appelle l'ICRAC, par exemple, et qui justement...
Donc il y a une association...
C'est un acronyme dont je n'ai plus le
oui, qui demande l'interdiction de ces...
Des robots tueurs, ces robots. Immédiatement, ou en tous les cas...
On peut trouver facilement sur Internet.
Sur Internet, tout à fait. Qu'aujourd'hui, qui est développé également par Noël Sharkey, qui est à la tête de cette initiative, qui est un roboticien également anglais, et donc qui vise justement à prévenir le développement d'une technologie qui pourrait devenir hors de contrôle.
Est-ce qu'on pourrait, alors hors de contrôle, c'est la question que j'allais vous poser, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un robot déclenche une guerre, soit en buguant, puisque ça arrive, c'est une machine, soit en s'emballant d'elle-même.
Alors, la question du robot qui déclenche la guerre, dans la mesure où un robot ne peut rien originer, démarrer de lui-même, avoir une intention, je ne pense pas qu'il y aura un jour un robot maléfique qui déclenchera une guerre. On n'est pas dans Terminator, je parle du film. Mais pour autant, il est certain que la facilité d'emploi et de déploiement d'un robot va rendre beaucoup plus tentant le fait qu'on aille faire la guerre un peu à gauche, à droite. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez des opérations, par exemple, au Yémen, qui s'étaient menées, alors qu'il n'y a pas de...
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on fait la guerre plus facilement puisqu'on sacrifie moins de soldats, donc on va faire la guerre un peu partout, alors qu'avant,
On ne s'embarrasse même plus de déclarer la guerre. On ne s'embarrasse même plus de déclarer la guerre à un territoire donné. On crée ce qu'on appelle des killbox, c'est-à-dire qu'on va considérer que la guerre... peut être déclaré au terrorisme, donc à toute personne terroriste, donc on limiterait dans l'imaginaire finalement la guerre au corps de l'ennemi. Donc peu importe géographiquement, donc peu importe les règles internationales en la matière, hein, pour autant que le terroriste est à tel endroit, au Pakistan, au Yémen, n'importe où, je n'ai pas, moi, nation occidentale, besoin de déclarer la guerre, je déclare la guerre aux terroristes.
J'envoie des robots, j'envoie des machines, j'envoie des drones, voilà. Et je fais la guerre comme ça, voilà. Ça me coûte moins cher en être humain, en perte.
Et en fatigue administrative de déclarer la guerre, pensez-vous, si jamais tout d'un coup il franchit la frontière, ça ferait tout un tas de papiers. Je caricature, bien entendu, à outrance.
Donc c'est un risque de développement des conflits, somme toute, ces robots tueurs.
Et surtout, sans respect des contraintes et des protections du droit international humanitaire actuel.
Eh bien, c'était autour de la question « Pourquoi les robots tueurs ?» Marie-Denage Ruffaut, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Itinéraire d'un robot tueur » aux éditions Le Pommier. C'est un essai très intéressant à lire, très amusant même, qui se présente sous forme de conversation entre des philosophes, des biologistes, des primatologues, des informaticiens.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation, Sophia Bétard en coulisses. Portez-vous bien, merci de votre fidélité, et dans quelques instants, les infos sur la Radio Mondiale.